ta place un cloître long.
Vous écoutez Radio Campus Lille, nous sommes aujourd'hui le 22 janvier 2014, il est midi légèrement passé et nous sommes sur Lille avec, et avec nous l'équipe des journalistes du journal La Brique qui viennent nous présenter leur dernier numéro, comme il y a 2 mois. Donc leur dernier numéro, le numéro 38, La culture en rade. Donc c'est le second volet d'une série thématique sur le bilan de ce qui s'est fait depuis 5 ans. À Lille, par la municipalité. Alors, autour des micros, Yann.
Salut André.
Voilà, ça permet de vérifier si les micros sont bien branchés. Thomas.
Salut André.
Bonjour Thomas. André et les auditeurs, surtout.
Et les auditeurs.
Fais pas notre émission pour nous, ou alors on peut la faire au bistrot. Et Tonio.
Cher André, chers auditeurs, bonjour.
Voilà. Donc, de l'info, de l'enquête, de la musique minutieusement sélectionnée. C'est La Brique sur Radio Campus Lille. Bon, votre nouveau numéro, c'est sur la culture, les activités culturelles. Hein, je cite quelques titres de chapitres. Enfin, ou alors on commence par faire le bilan du numéro précédent.
Ouais.
Allez, le numéro précédent.
Ben, donc, c'est vrai qu'on a lancé une nouvelle formule, donc, avec comme tu le disais, une série thématique de numéros. Là, c'est le deuxième. Et le premier, ben, c'était un peu un test, justement. On voulait voir ce que ça allait donner, si les gens allaient apprécier que tout notre journal soit consacré au même thème. Et on s'est rendu compte qu'avec le premier numéro, bah ça, c'est vraiment positif en fait. Déjà parce qu'on a eu des bons retours sur le contenu, sur le fond, sur les enquêtes, des bons retours positifs. S'il y a eu des retours négatifs, c'était des choses. Enfin, c'était surtout parce qu'on pouvait pas tout dire, donc il y a des choses qu'on n'a pas pu aborder et on le regrette, mais bon. Et sinon, il y a eu de nouveaux abonnements. On a bien vendu. Et voilà. Ça, c'est aussi...
Ouais, je pense que c'est une formule qui nous va bien.
Et
donc, pour info, là, nous, on est sur les 3 numéros, mais à partir du 3e, on ne sait pas où est-ce qu'on va. On n'a toujours pas décidé. On n'a pas encore discuté. Donc
après le troisième,
après celui qui sortira en mars. Mais donc, ça nous donne des idées pour la suite et peut-être pourquoi pas continuer sur une formule comme ça.
Ouais. C'est une bonne, y a une bonne dynamique.
Voilà, alors on peut remarquer, par exemple, des articles qui sont repris. Par exemple, l'interview exclusive d'Edward Snowden par Tom Joe est parue sur Le Grand Soir. Alors je conseille aux auditeurs d'aller lire les commentaires.
Alors cet article-là ne faisait pas partie du dernier numéro.
Oui,
mais ça fait partie des articles qu'on met en ligne entre chaque numéro.
Voilà.
Quand vraiment on peut pas supporter d'attendre. Alors là, on met directement en ligne.
J'ajoute que vous venez d'en mettre un certain nombre en ligne. Hein. Donc on va parler des articles dans le journal. Mais
voilà,
il y a de la lecture.
Pour information, en ligne, il y a l'enquête sur la bourgeoisie qui avait été l'enquête du numéro d'été qui est en intégralité en ligne, plus quelques autres articles, un article de ce numéro-ci sur la culture qui est actuellement en kiosque.
Et un article qui est très important sur l'habitat et la ville de Lille et la fabrique de l'embourgeoisement qui a été présente dans le numéro précédent. Et là, on l'a mis en ligne et je pense que, comme les autres, que c'est vraiment un article très très important, donc à faire tourner, à lire. L'habitat et la ville de Lille, la fabrique de l'embourgeoisement.
Alors, la fabrique de l'embourgeoisement, on la fabrique, grâce à une politique de logement, hein, une politique d'habitat, et aussi une politique culturelle.
Tout à fait.
Et aussi une politique culturelle.
Voilà, donc c'est d'où ce numéro.
D'où ce numéro. Et donc voilà, c'est un peu l'idée qui est reprise notamment dans l'éditorial un peu du numéro. C'est-à-dire que on précise directement, ce numéro en fait parle moins de culture, il parle plus en fait du culturel que de la culture. C'est-à-dire le culturel, c'est la culture passée à la moulinette des pouvoirs publics et des pouvoirs locaux. Et donc c'est-à-dire qu'est-ce que produit, quelle est la production culturelle de la municipalité, de l'île 3000, de la communauté urbaine, des pouvoirs publics, et quels intérêts elle sert en fait directement.
Quels intérêts elle sert.
Et donc en quelque quelques points. On montre dans l'éditorial, on décrit dans l'éditorial qu'elle sert, enfin que quand on va chercher un bilan de la culture, bien souvent on tombe avant tout sur des tableaux Excel, des chiffres, des retombées économiques, des places dans les hôtels, du transport entre Paris et Lille, enfin on tombe sur un bilan comptable comme ça, et donc on se dit bon d'accord, la première chose, la culture, c'est qu'elle doit avant tout faire marcher la machine économique et ramener de l'argent. Un deuxième point, et ça on met vraiment en lien avec le premier numéro qui était consacré à l'habitat, c'est que la culture elle sert aussi à transformer les quartiers populaires. Alors dans notre numéro sur l'habitat, on avait une carte de la ville et on montrait les fronts de l'embourgeoisement tel qu'il avançait un peu du nord au sud, et on voyait que sur ces fronts, c'était avant tout des lieux culturels. On a les gares Saint-Sauveur, on a les maisons Folies d'Oisem, on a maintenant la nouvelle maison du hip-hop à Moulins, et donc les lieux culturels servent aussi à transformer les quartiers populaires, voire avant tout à transformer les quartiers populaires. Et puis, c'est quelque chose sur lequel on a essayé de moins revenir, parce que la brique revient souvent là-dessus. Transformer Lille en capitale européenne de la culture, c'est mettre Lille sur le marché, sur la concurrence, sur le marché des villes européennes pour attirer les capitaux, attirer les investisseurs. C'est-à-dire qu'on a Euralille qui s'est mis en place et on a la dynamique culturelle qui s'est mise en place, et tout ça, ça va de pair. Ça sert avant tout aussi à positionner la ville et à relancer l'économie. Et donc voilà, on est sur quelque chose de très économique.
Très économique, mais qui sert aussi à faire disparaître une partie des structures qui existaient avant, ou des habitudes, à modifier les habitudes des gens, à changer les structures.
Alors voilà, exactement.
À mettre au pas les associations. Enfin, c'est ce qui se passe à Mons, en Belgique, en ce moment.
Ouais, c'est un peu les nouveautés. Comme pour le logement, justement, il y a une société anonyme d'économie mixte qui va gérer la fabrication de nouveaux logements, la fabrication de la ville, de la nouvelle ville, etc. Bah, là, c'est pareil un peu au niveau de la culture. C'est qu'il y a une grosse association, une grosse structure qui va remodeler, finalement, s'approprier les politiques culturelles. C'est Lille 3000, ça n'est pas partie de la municipalité, mais c'est une association, une structure à côté qui va s'occuper de ça, avec les effets, les néfastes dont tu parlais juste à côté. Ça se passe à Mons.
On pourrait dire que c'est une SEM de la culture, hein, parce que c'est exactement ça. Parce qu'il regroupe pouvoir public, patronat, donc on va y venir, mais il y a plusieurs cercles, on y retrouve des patrons, des artistes, des pouvoirs publics, et tout ça c'est co-géré. Et voilà, on se rend compte, Lille 3000 phagocyte la culture et à côté assèche les petits lieux indépendants sur lesquels il pourrait y avoir une autre expression culturelle qui puisse être entendue.
Ceux qui ne sont pas sur les tableaux Excel des bilans, parce que sur ce qu'il y avait avant, on n'en parle pas.
Ou alors qu'ils sont très mauvais sur les tableaux Excel et donc voilà.
Ils ne sont pas obligatoirement très mauvais sur les tableaux Excel. La culture à Lille, y a des choses qui existaient. Book, par exemple, le dessinateur, je ne sais pas s'il participe beaucoup alors on fait des événements sur la culture, est-ce qu'on va parler des articles, des artistes locaux? Donc, moi, je cite Book, Isabelle Aubray, elle est toujours en vie, hein, cette brave femme. Une chanteuse très connue. Maintenant, on ne la connaît plus que parce qu'elle a quelques magasins de pressing. Mais bon, Malé Stevens, c'est un grand architecte. J'ai jamais vu une rétrospective Malé Stevens à Lille. Raoul de Gosvarsveld, quand même un chanteur, je ne sais pas. Bon, il y a des fêtes à Raoul, mais c'est surtout sur Steinvoorde. Les fanfares, Jean-Claude Darnal, Patou, Eugène Leroy, Aurore Janon, Yolande Moreau, tout ça, ce sont des Lillois. Ça fait partie de la culture de Lille. Et ça n'a pas été repris par Lille 3000. Aucune de ces personnes, je pense. Et un tas d'autres. Excusez-moi.
Juste pour finir là-dessus, il y a une ambiguïté, parce que Didier Fusillé, donc le grand chef d'orchestre de Lille 3000, avance en permanence, qui reprend cette culture un peu folklorique ou du Nord ou traditionnelle pour la moderniser. Et puis au final, mais en même temps, il est assez méprisant par rapport à ça. Mais on y reviendra plus tard.
Oui, bien sûr. Une petite coupure musicale.
On passe un petit morceau. Allons-y.
Petit morceau. Bah.
Je ne pourrais pas respirer un autre air que celui de ma si bonne vieille ville, que l'air de Lille. ville. L'air de Ouessant, l'air de Poissy me glace le sang, me pétrifie. Tandis qu'en humant l'air de Lille, je reste tranquille. L'air de Conflans, l'air de Clichy me tue, m'exténue, m'asphyxie. Il me laisse prostré, immobile, faible et fébrile. L'air de Hier, l'air de Chambéry, l'air d'Armentière, l'air de Paris me rendent malade tant ils me sont hostiles. Durant ma longue vie d'aventure, j'ai traversé beaucoup de pays. J'y ai vu mille villes et je jure que j'eus préféré rester ici. Que j'eus préféré rester à Lille, dans cette ville que je chéris. La seule à me prêter un asile, où je puis respirer sans souci. Je ne pourrais pas respirer un air, un autre air que celui de ma si bonne vieille ville, que l'air de Lille, l'air d'Orléans. Comme l'air de l'an, ont dans le fond comme un relent, si dur, si rude, si violent, qu'il m'horripile. L'air de Toulon, l'air de Floyon, m'étouffe, me font des façons de m'effacer de mes fonctions si difficiles. L'air des Vianhoux, l'air de nos gens, sans vouloir paraître exigeant, sont trop flués, inconsistants, pauvres et graciles. L'air de Brest, ou l'air d'être taille, c'est la peste qui s'abat. Je reste dans un piètre état, proche du fossile. L'air de Lyon me fait mal au cœur, l'air de Rion me donne des langueurs, et je pleure des heures ce malheur d'être en exil. L'air de Poitiers, l'air de Dijon me laisse moitié moribond. Je les inhale et pour de bon, ils m'annihilent. Et quand j'inspire l'air de Fréjus, je prends un genre de courjus en une seconde, pas plus, ma vie défile. L'air de Bastia, l'air de Calvi sonne mon glam haute la vie. Il n'est qu'un air que j'assimile. Et cet air-là, je ne vous dis que ça, ça tombe pile, je vous le donne en mille. C'est l'air de quoi? C'est l'air de Lille. Je ne pourrais pas chantonner un autre air que l'air que voici, qui chante ma bonne vieille ville. C'est l'air de Lille, l'air d'Avignon. Quand je l'entonne, ne tourne plus rond, car plus personne ne danse sur son pont fragile de danse futile. L'air de Paris, tiens, encore lui, assis souvent hanté nos nuits. Je ne le chante plus, tant pis, je coupe le fil. Je ne pourrai pas chantonner un autre air que l'air que voici, qui chante ma bonne vieille ville, que l'air de Lille.
Vous écoutez Radio Campus Lille, c'était Cyril Dimny, l'air de Lille, Lille, la brique, le journal La Brique. Donc investissez intelligemment, investissez dans La Brique, c'est chez votre marchand de journaux par abonnement. Donc un numéro sur la culture à Lille, les masques et la thune.
Numéro sur la culture à Lille, et donc l'entrée de numéro, les pages 4 à 7 sont consacrées à un petit dossier à l'intérieur de ce numéro sur Lille 3000, l'entreprise Lille 3000, la machine Lille 3000. Donc on essaie de réaliser un bilan sur les deux premières pages, on s'attache un peu à décortiquer et à voir ce qu'il y a de pas clair dans les liens entre Lille 3000 et les mécènes privés. Et sur une quatrième page, on essaye de faire un petit portrait de cette gare sans saveur, gare sans sauveur, qui aujourd'hui est le temple de la culture lilloise.
Le temple, une religion, donc la culture.
Voilà, c'est
la religion pour contrôler les esprits. Yann ?
On a fait un papier. En fait, là, cette année, c'est les 10 ans de Lille 3000. Ça fait 10 ans maintenant que ça existe. Donc voilà, on a voulu dresser un petit bilan. Et du coup, on rappelle des choses qu'on avait déjà écrites, hein, parce que sur Lille 3000, on a déjà pas mal d'articles aussi qui sont sur le net. Donc il y a pas mal de choses qu'on n'a pas répétées. Mais voilà, on revient par exemple sur l'origine de l'île 3000, du coup, qui est une association qui est née dans la foulée de la candidature au JO de 80, c'était combien ? C'était 98, 97 ?
97, ça.
97 la présentation, 98 l'annulation. En fait, on est à ce moment-là dans un contexte où voilà, le comité Grand Lille, qui est un regroupement de patrons, cherche en fait un levier économique pour la région. Et voilà, et du coup, fait semblant de poser une candidature au JO, puisqu'il n'y a vraiment pas d'autre mot. C'était juste voilà, un espèce de coup de bluff, hein, comme dit lui-même Bonduel. Et voilà, mais ça va permettre déjà d'attirer l'attention sur l'île, de regrouper certaines personnes, etc. Et du coup, de pouvoir lancer dans la foulée l'île 3000. Et c'est la culture qui va devenir le levier économique. Ça aurait pu être le sport, ça aurait pu être autre chose. Et voilà, bon là, c'est la culture du coup qui a pris le pas avec l'obtention du label l'île capitale de la culture dans la fin des années 90 ou le début des années 2000, et qui donnera du coup l'île 2004 et puis après la biennale l'île 3000. Alors comme disait Tonio, c'est intéressant quand on s'intéresse juste au fonctionnement au départ de l'île 3000, on s'aperçoit que du coup pour diriger l'île 3000, il y a donc Didier Fusillier qui est donc le dirigeant. Donc là, c'était un peu cocasse, puisqu'on l'a rencontré au Tripostal. Il nous a accueillis en interview.
Oui, il vous a
répondu. Dans des beaux fauteuils en cuir. Hein, donc il voulait nous faire la pédagogie de son travail. Bon, c'était bon courage à lui, mais bon, c'était déjà décent de sa part de nous recevoir et d'accepter quand même de discuter. Mais c'était assez hallucinant de pouvoir recueillir ses propos directement. Donc voilà, donc on retrace aussi dans les différents papiers une bonne partie de son discours. Ça, vous pourrez le découvrir un peu plus en détail dans les pages. Mais du coup, donc pour diriger l'île 3000, il y a en fait trois collèges. Un collège de patrons, un collège de dirigeants de structure et un collège d'élus, quoi. Donc là, on voit tout de suite que voilà, il y a pas de collège d'habitants, il y a pas de collège de collectif artistique, voilà. Et surtout, dès ses premières années, tout ce petit monde va, grâce aux personnes qui sont, elles, élues, s'octroyer voilà, énormément d'argent public. Alors ça se chiffre en millions. Là, je vais pas, enfin voilà, on fait pas une bataille de chiffres, mais c'est juste intéressant de voir comment tout ce petit potentat s'organise. Et comment finalement Martine Aubry du coup s'attribue elle-même des subventions par le biais de la municipalité, par le biais de la communauté urbaine, etc.
Et donc, de la communauté européenne, parce que l'année de la culture, c'est...
Ouais, alors
c'est aussi financé par la communauté européenne, l'Union européenne, pardon.
Pour l'époque, ouais.
Pour l'époque.
Pour l'île culture de la.
C'est ça, c'est peut-être une des seules associations culturelles où on retrouve le financeur à l'intérieur du conseil d'administration et qu'on peut s'auto-voter des subventions assez.
Voilà, c'est.
Ouais, les financeurs sont dans le conseil d'administration.
Oui, voilà, c'est la conclusion à laquelle on est arrivé. C'est effectivement la première fois qu'on voyait ça. Donc voilà, enfin c'est proprement hallucinant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ensuite, l'île 3000, c'est aussi un employeur, voilà, du coup, qui fait travailler, c'est vrai, pas mal de gens au niveau de la culture, mais voilà, mais dans des conditions souvent assez précaires. Donc là-dessus, on avait écrit déjà pas mal dans des précédents numéros. Là, on revient un peu dessus. Notamment, là, on détaille un petit peu l'espèce de coup d'esbrouf ou de magouille qui consiste à appeler des gens non pas des guides du coup par exemple dans les expos mais des médiateurs.
Il n'y a plus de guides, il n'y a que des médiateurs.
Voilà, ce qui permet de les payer un peu plus basiquement. Et on a aussi après on analyse aussi la fonction un peu hein, de l'île 3000 qui n'est pas du tout voilà ce qu'on pourrait croire de mettre en place une culture populaire, une culture avec des habitants, quelque chose qui puisse venir s'appuyer sur des pratiques culturelles existantes ou historiques. Alors lui Fusillier se présente comme un faiseur de carnaval des temps modernes, mais bon, je pense que les carnavals n'étaient pas aussi verticaux quand ils étaient organisés, peut-être même pas encore aujourd'hui.
D'ailleurs, il n'y a pas de carnaval à Lille.
Non, mais lui, il nous parle des processions, hein, voilà, ouais. Qu'il y avait, enfin voilà, des processions religieuses ou
au Moyen Âge,
peu importe qu'il y avait au Moyen Âge, hein, donc on voit l'inspiration. Et voilà, donc après, on est plutôt un peu sur ce décryptage, en fait, ce que disait Tonio un peu en intro, voilà, de ce que ça représente. C'est plutôt voilà une stratégie effectivement pour redessiner des villes, pour déplacer des populations, pour gentrifier certains quartiers,
et pour écarter certains artistes. Puisque moi je me souviens en 2003, bon avant 2003, j'allais de temps en temps à la Malterie par exemple. Il y a eu l'année de la culture. Les spectacles ont totalement changé, plus aucun autochtone, plus d'indigène.
Mais ça, je dirais que c'est un effet presque secondaire. C'est pas la fonction directe, mais effectivement, ça a l'avantage d'avoir cet effet secondaire d'entériner tout ce qui peut être de l'ordre du subversif ou de l'ordre de gens qui arrivaient encore à un moment. Enfin, voilà, on en parlera en fin de numéro, mais qui arrivaient encore à un moment peut-être à faire passer du contenu politique au travers d'actions ou de projets quand même un peu subventionnés. Aujourd'hui, voilà, ces gens-là sont de plus en plus asséchés. Donc voilà, fonction principale, redessiner les villes, gentrifier les quartiers, et puis ce qu'on disait un petit peu, voilà, on est plus en fait dans une culture de l'événementiel, voilà, avec des choses qui doivent impérativement surtout avoir des retombées économiques et qui ne se situent pas du coup dans une dynamique populaire, comme on essaye de nous le faire croire, voilà, que c'est une fête populaire, c'est un grand rassemblement d'habitants.
Ouais, voilà, ça avant tout ça, quoi. C'est la culture qui est prônée. Quelle culture est prônée? La culture qui est prônée, c'est l'événement. C'est tous les deux ans faire un tour entre la gare Lille-Flandre et l'Opéra en touriste dans sa propre ville. C'est-à-dire qu'on a donné des milliers d'euros à quelqu'un pour aller redessiner toute la ville comme ça. On n'est plus du tout dans des logiques de culture, d'éducation populaire, d'amener les gens à réfléchir, d'amener les gens à s'interroger. Et on a même l'impression que, comme on est dans une société, enfin que les temps en ce moment sont assez déprimants, on va essayer de réenchanter complètement artificiellement l'espace public, la vie des gens. Et donc on est vraiment sur... voilà, de toute façon, lui, il le dit directement comme ça, Fusillé, c'est un palliatif à la crise, son truc. C'est pour éviter de tomber dans la sinistrose, je vais vous mettre des paillettes aux yeux tous les deux ans et vous allez voir, ça va être fantastique. Et donc voilà, la culture, elle est plus du tout là pour faire réfléchir, elle est plus du tout là pour interroger les choses de la vie, elle est là pour oublier. C'est du divertissement, c'est de l'événement. C'est de l'événement, c'est fantastique, c'est incroyable.
Elle est aussi là pour vernir un bilan politique, parce que quand on est à Paris ou ailleurs en France, on dit pas waouh, Martine Aubry a fait baisser le chômage dans la région ou dans la communauté urbaine à fond. On dit pas ça, mais on va dire quand même, ouais, ça, elle a fait des choses, Martine Aubry, ça a bougé et tout. Bah, elle a fait quoi? Bah, elle a fait des spectacles, des défilés, elle a fait des...
Elle a fait au moins 4 couvertures de Télérama, hein, voilà, sur les deux dernières années quand même, grandiose.
Donc, c'est pas mal. Bravo Madame Aubry. Elle a aussi transféré des emplois, finalement. Je sais plus si c'est vous qui me le disiez. Lille est la seule ville qui a pas perdu d'emplois ces deux dernières années, c'est quelque chose comme ça, non? Dans le nord de la France. Qui me disait ça. Mais bon, grâce à la MCU, on transfère les emplois à Lille.
Il faut voir la structure des emplois.
Ouais, on en crée avec le conseil régional aussi.
C'est qu'il y a un centre qui profite. Il y a un centre qui profite. Après, des périphéries qui vont plus ou moins profiter. Et puis, il y a des marges complètement qui se vident. Ça, c'est le système de la métropolisation et de la mondialisation, de toute manière. Ça, c'est...
Sur cette dynamique d'emploi, je ne sais pas sur ce chiffre ou cette réalité-là, mais en tout cas, on sait que tous les derniers emplois qui ont été créés autour des pôles d'excellence, etc. En tout cas, c'est pas des gens du coin qui en profitent, voilà, c'est pas des habitants de ces quartiers-là non plus. Voilà, c'est des gens qui vont venir de Paris, qui vont venir de l'étranger, c'est des ingénieurs, c'est des gens qui, de toutes les manières, auraient peut-être pas eu de grandes difficultés à trouver du travail. Mais par contre, voilà, pour les autres, ils attendront de faire caissière ou caissier au centre commercial de l'île Sud, ils attendront d'aller vendre des chicken wings au KFC. Et voilà.
Et bon, on peut revenir à Lille 3000 parce que donc on a parlé quand même de gros sous, d'une histoire de gros financement et public et privé, et on s'est intéressé aussi plus particulièrement au financement privé qui viennent des entreprises ou d'autres choses. Alors bon, on peut se dire au début, enfin à la base, il n'y a pas de quoi s'étonner, c'est des mécènes, c'est du mécénat, et puis bah oui, pourquoi pas finalement. Mais là, on est loin en fait de la définition du mécène qui donne à l'artiste, à la culture, sans intérêt derrière, quoi, sans y avoir, il donne juste pour donner, pour le geste, de la générosité. Là, c'est plutôt du donnant-donnant. Ceux qui donnent à l'île 3000, ils ont quelque chose en contrepartie, ils attendent quelque chose en contrepartie, quoi. Les exemples les plus évidents, c'est par exemple que certaines entreprises, certains sponsors peuvent profiter des salles, des structures comme le Tripostal. Ils veulent organiser une soirée avec leurs clients ou des choses comme ça, ou d'autres entreprises, et ben ils peuvent disposer du Tripostal comme d'autres grands patrons peuvent disposer du golf de Bondu d'un autre côté. Mais c'est un peu le même système. Et il y a un cas qui est vraiment très particulier, c'est celui de Luc Doublé. Luc Doublé, qui est un homme influent dans la métropole, dans la région même. Luc Doublé, qui a créé une entreprise de drapeaux.
Leader mondial
du drapeau. Il fournit les plus grandes compétitions de sport au monde. Bref, il est très connu. Et puis, il s'occupe aussi de faire le marketing de la métropole, de la région, de l'île-région. Donc, il fait la publicité. Il cherche à vendre la région. Il la vend comme une lessive, d'ailleurs. C'est lui-même qui le dit. Donc, cet homme, il a son portrait qui est sur notre site internet, labrigue.net. Il vient d'être publié il n'y a pas longtemps. Vous pourrez aller le voir. Comme ça, vous aurez un peu plus de précision sur lui. Donc, cet homme est en même temps mécène de l'île 3000, donc il donne de l'argent. En même temps, il est prestataire de l'île 3000 parce qu'il fournit des drapeaux, des bannières qui vont servir aux événements de l'île 3000. Donc il donne de l'argent et puis en même temps il va obtenir des contrats pour l'île 3000. Bon, on peut se dire qu'à la limite, comme fusillé, il n'y a pas de quoi s'en étonner puisqu'ils font un marché public, donc il remporte le marché public, il a le droit d'être mécène, etc. Mais par contre, là, c'est là où le bât blesse, c'est que quand on regarde, on décrypte le conseil d'administration, la composition du conseil d'administration de l'île 3000, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, Luc Doublé est trésorier de l'île 3000. Et donc, il est trésorier de l'île 3000, il est chargé de tout ce qui concerne la gestion financière et budgétaire de l'association. Alors, on a téléphoné, parce que ça nous a semblé bizarre et un peu peut-être illégal, pas trop légal. Puisqu'il s'attribue en fait des contrats de sa propre entreprise. Pour le dire autrement, Doublé, trésorier de l'île 3000, passe commande à Doublé, PDG de l'entreprise Doublé. Et donc on joint le chargé de communication de l'île 3000, on lui explique tout ça, et il nous répond « Ah, alors ça je peux pas vous répondre, je suis pas juriste. Nous non plus, mais il y a quelque chose de bizarre. » quoi.
Ça nous semble quand même rempli de... peut-être possiblement de conflits d'intérêts. Alors voilà, nous on n'est pas, voilà, effectivement on n'est pas juriste non plus, mais en tout cas tout ça nous semble très très...
À approfondir.
Voilà.
Alors c'est intéressant les drapeaux parce que finalement je pense qu'on en voit pas tellement sur l'île, mais on en voit de plus en plus ailleurs. Les stations-service, il y a des drapeaux. Alors si vous allez à Bruxelles, il y a des places où vous avez 50 drapeaux qui vous rappellent une manifestation. Je veux dire, c'est un élément décoratif et culturel, pas cher. Donc lui, il a diversifié sa société, et a trouvé une nouvelle branche d'activité, j'ai l'impression.
Il fait des médailles aussi. Hein.
Il fait des médailles.
Des coupes, des médailles, des drapeaux.
Oui,
médailles,
bien sûr.
Puis les drapeaux, ça brûle très très bien.
Et il y avait un deuxième exemple qui était donné dans l'article aussi, par exemple, c'était la décoration d'un nouveau hôtel. Donc un hôtel qui appartient au groupe Accor, qui est un groupe qui est un descendant des grandes familles du Nord aussi, un peu comme un Mulier ici. Et donc la façade du nouveau hôtel avait été redécorée par un duo d'artistes qui lui avait été rétribué par l'île 3000. Donc on redécore un nouveau hôtel et on permet d'avoir une image et des articles et tout ça pour nouveau hôtel, tout ça rémunéré par l'île 3000. Donc on voit bien que là on a effectivement on marche main dans la main, quoi. Main dans la main avec le patronat du Nord.
Faut faire des affaires, faut financer.
Faut bien avancer, faut bien financer.
Après, derrière tout ça, derrière cette culture, pas d'hésitation, hein. Une petite recherche sur le web, puis aller écouter Franck Lepage, il en parle très bien du contenu de ce qu'on vous présente, de la
conférence gesticulée.
Ouais, la conférence gesticulée sur la culture, elle est très bien.
Allez. Oui, parce que là, c'est vrai qu'on ne s'est pas trop attaché au contenu, mais oui, on est constamment là dans des choses quand même qui sont de l'ordre de l'art contemporain, de l'art moderne, etc., qui sont des choses assez élitistes, enfin des choses assez énigmatiques.
Énigmatiques ou franchement malsaines Bon, on va pas. C'est pas le sujet de l'émission, mais.
Nous ne sommes pas critiques d'art, donc.
Mais bon, un jour, il faudra faire ça à la radio, parce qu'il y a un côté, nécrophile, au niveau de l'art contemporain. Après, pourquoi les entreprises financent-elles ce genre de manifestations? Il faut bien qu'elles financent le contrôle social elles-mêmes, puisqu'elles n'ont plus trop les moyens. L'État n'a plus trop les moyens, pardon, excusez-moi. Les entreprises n'ont jamais eu autant les moyens. Alors, on va essayer de relancer cette chanson.
Assassin.
L'éducation à travers les médias.
Tous les gens j'entends à la radio, à la télévision, tel ou tel sujet poussé jusqu'à la dérision. Mais tout le monde sait que tous journaux ou chaînes de télé ont des partis politiques bien prononcés. Alors, dites-moi, quel parti prendre? Ils sont là pour nous descendre. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et la presse à scandale ne vit que sur le profit. Vous écrivez sur nous, et bien j'écris sur vous. Putain de journaliste à l'affût de gros coups. Exact, prends ça comme une menace. Quand tu que je m'efface car tu es d'un avec le pouvoir en place. Le formidable publicite, j'en deviens paranoïaque. L'information abuse par sa position et ses actes. Le pouvoir des médias est dangereux pour des gens ignorant la puissance que dégage et torrent de documents. Un grand pourcentage de la population n'a que le journal de 20h comme vision du monde et de leur nation. Alors prenez attention à ne pas faire votre éducation. Savoir pourquoi la manipulation de certains par l'État permet d'éduquer une nation. Mais quelle éducation? Une éducation à travers la presse et la télévision, profitable aux dirigeants, sachant manier les pions, sachant manier la masse populaire, cachant la vérité que les gens vivent sur notre terre. Les Jeux Olympiques rapportent plus d'argent aux sponsors que les enfants qui meurent en Somalie, on est d'accord.
De la manipulation.
Mais je lutte face aux buts qui affûtent leur critique pour un scandale à la minute. Leur voix se répercute aux quatre coins du globe. Premier épisode, la télé manipule notre pensée. Les images diffusées sont déjà visionnées. Au sein d'une cour où il n'y a aucun appel, quand tu allumes ta chaîne, ton esprit s'en appelle. Et la pub promotionne le quatrième pouvoir. La force des médias n'agit plus pour sa gloire. Arrête de regarder ces merdes à la télévision et surtout ne fais pas ton éducation à travers les médias. Les médias, toujours le même refrain pour toujours le même résultat. Une prise de conscience par la vision, une interprétation par le milieu de la surmédiatisation. Quelle télé ou radio pourra simplement ne pas parler le vent quand il s'adressera aux adultes et aux enfants? Quel journaliste aura le temps de s'adresser à sa nation avec la précision et c'est pour dénoncer la corruption? La corruption est politique, la corruption est économique, la corruption est médiatique, mais les médias non liques. Les solutions se confient, les solutions sont sollicites, les solutions pour à l'encontre de politique. Donc éduque-toi par toi-même face au problème du système. Je prends du recul, puis j'enchaîne les gaines. Les radios ne nous passent pas car nous sommes trop à corps.
Écoutez Radio Campus Lille, c'était La Rumeur. Pardon, excuse-moi Yann.
C'était Assassin.
Yo. Assassin. Oh. Donc, Assassin, l'éducation à travers les médias.
Voilà
une programmation, la brique et une diffusion Radio Campus Lille. La diffusion n'a pas été de main de maître.
Alors, pour finir, peut-être sur ces quatre pages là, d'introduction de numéro et qui parlait plus spécifiquement de Lille 3000, on s'est dit on ne peut pas faire un numéro sur la culture à Lille sans parler du nouveau lieu culturel qui s'est créé il y a maintenant 2-3 ans et qui est la Gare Saint-Sauveur. Le lieu dans lequel Martine Aubry fait tous ses discours à portée nationale, dès qu'elle s'adresse de Lille à la France, elle le fait de Saint-Sauveur. Le lieu qui est un premier pied dans la friche de Saint-Sauveur et qui va être un nouveau quartier qui va se dessiner un peu sur Lille. Et puis d'aller voir un peu voilà, comment fonctionne un peu cette soi-disant coopérative d'artistes que Fusillé aurait mis en place. Et voilà, l'article est sur internet, donc on vous incite à aller le voir.
Et il est dans le journal aussi.
Sur la brique.net. Ouais, voilà. dans le journal et sur Internet. Et mais ce qu'on a pu se dire comme idée un peu centrale, c'était qu'on avait l'impression que la gare Saint-Sauveur est en train de phagocyter une offre culturelle sur l'île. C'est-à-dire que se retrouve à la gare Saint-Sauveur maintenant tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que là on n'a pas vraiment de programmation bien définie, on va pas censurer des groupes, on fait venir tout le monde, notamment par exemple des block parties. Alors les block parties, c'est des événements un peu autour du hip-hop et du mouvement hip-hop, avec graffeurs, danseurs, rappeurs, des choses qui se font à l'origine de manière complètement autonome, indépendante, et qui là sont ramenées à l'intérieur, des choses qui se font même à Lille. Depuis quelques années, depuis quelques mois, il y a ces formes de block party qui se mettent en place sur des friches, qui sont organisées complètement indépendamment de la mairie et des pouvoirs publics. Et là, on a la block party qui revient à Saint-Sauveur. Donc on se dit, voilà, Saint-Sauveur accueille tout le monde. Et donc, phagocyte et rassemble toute l'offre en son sein. Et à côté de ça, va se mettre en place de la part de la mairie une manière de réprimer un peu les lieux indépendants et les lieux qui pourraient continuer à fournir des choses un peu autonomes. Et c'est notamment le cas des cafés-concerts. Je passe la parole à Yann, peut-être pour un petit, quelques petits mots là-dessus. C'est la double page centrale de notre numéro, de ce numéro 38.
Merci, très cher camarade.
Mais de rien.
Oui, donc c'est un papier qu'on a intitulé L'île la nuit. Et voilà, qui retrace un peu ces difficultés-là. Alors je sais pas, voilà, si nos auditeurs et nos auditrices sont adeptes des fois un peu de sorties nocturnes ou voilà, d'aller boire des coups dans des bars, discuter un peu avec des cafetiers. Vous avez peut-être aperçu que c'était assez difficile comme taf quand on est un petit café indépendant, etc. Quand on essaie de faire des concerts le soir, de faire 2-3 activités. Donc voilà, donc là nous on a rencontré par exemple une asso, Black Circle, qui organise des concerts de musique amplifiée, comme ils disent sur l'île, et voilà, pour faire un peu un petit état de ce zèle policier, de cette présence policière. Voilà, ils nous rapportent là juste en un mois, hein, je crois que c'était de mi-novembre à la mi-décembre, pardon, où ils étaient à une trentaine de descentes dans quatre bars différents. Donc on voit qu'il y a une espèce de pression effectivement sur des cafés indépendants, on sait pas trop d'où ça vient, etc. Et en fait, en creusant, bon bah du coup on s'aperçoit qu'il y a tout un arsenal légal, que tout ça est très très bien encadré. Tout ça en fait vient d'un document qui s'appelle la charte de la vie nocturne, de la mise en place aussi de ce qu'on appelle les états généraux de la nuit. Alors je vais essayer de pas être trop technique, voilà, c'est un peu détaillé dans le journal, vous pouvez regarder sur internet à quoi ça correspond. Mais en gros, l'idée, c'est dans les années 2000 de pouvoir mettre un frein, en fait, sous couvert de prévention routière, voilà, aux nombreux morts qu'il y a sur les routes de Belgique, avec tous les gens qui sortent en boîte par là-bas, etc. Et de retenir les gens sur l'île. Alors cette idée intéresse fortement à la fois les patrons de boîtes de nuit lilloises et puis les politiques. Donc là, on a une convergence d'intérêts. Les gens vont se retrouver, se mettre autour de la table et puis décider que certains lieux auront le droit à des fermetures tardives. Le secteur Masséna, quelques îlots dans le Vieux-Lille ou par ailleurs, et puis voilà, dessiner une carte, du coup, une carte, un secteur du coup de fermeture tardive. Et les autres, ceux qui ne sont pas dans ce secteur, eux, voilà, devront fermer du coup à 1h ou à minuit en semaine. Et cette charte, du coup, met aussi en place tout un tas d'éléments, voilà, de contraintes, avec des contraintes d'insonorisation des lieux, avoir un limiteur de décibels, et toujours devoir répondre à de plus en plus de contrôles, que ce soit de la municipale ou de la nationale. Alors ça va jusqu'à des blocages de rue entiers, les flics passent un soir, ils passent le lendemain, ils repassent le lendemain juste pour demander les papiers du patron et la licence 4, comme si les choses pouvaient bouger en 24 heures. Et voilà, et on se retrouve du coup avec avec deux choses très très différentes. D'un côté, du coup, des cafetiers indépendants qui ont du mal à mettre en place ces travaux, à se conformer à toutes ces normes, et qui en plus subissent du coup les contrôles policiers. Et de l'autre côté, la rue Masséna qui se pavane, qui concentre l'espèce de cœur de nuit de la vie rêvée de Martine Aubry
l'industrie
et en même temps, qui peuvent fermer jusqu'à 3h du matin et du coup faire d'autant plus de profits, et d'autant plus de blé sur toutes ces consommations. Donc ce papier retrace un peu du coup ces difficultés là et ces choses là. Je sais pas si j'oublie des grandes choses dedans. Donc on parle dedans là de Duquesne, un patron de boîte.
Donc il y a Franck Duquesne, oui.
Voilà, un
est patron assez de connu, boîte du coin, si
qui est assez emblématique du coup de cet état d'esprit, et puis aussi de ces liens qu'entretiennent aussi certains de ces grands patrons avec la police lilloise ou la police du Nord, simplement. Donc là encore, c'est des choses qu'on n'a pas pu creuser jusqu'au bout, mais on le voit très bien, puisqu'il y a encore quelques années, il organisait, il prêtait ses établissements à un responsable de la police du Nord qui a depuis été destitué dans l'histoire des SK Carlton, etc. Enfin voilà, les liens patron-flic sont bel et bien là. Et de l'autre côté, il y a tous les petits cafetiers indépendants qui galèrent. Et du coup, c'était la fermeture du Détour, la fermeture du Salcero, les pressions sur l'imposture, sur plein d'autres cafés. Un peu toute cette histoire-là. Et comme par hasard, du coup, comme le disait Tonio avant, après on a un lieu comme Saint-Sauveur qui n'a pas d'études d'impact, qui n'a pas de limiteur de décibels, qui n'a pas de contrôle de police, qui ne fait pas plus de contrats de travail. Donc on a vraiment deux poids, deux mesures entre ce qui est dessiné par Aubry, le secteur Masséna, ce qui est son fief Saint-Sauveur, et puis tout le reste.
Donc un petit nettoyage ethnique, on pourrait dire.
Par le vide. Oui, tout ça en plus s'inscrit. Le Détour, c'était un des derniers. Ils sont plus très nombreux les bistrots sur Moulins, alors qu'à l'époque, c'était un quartier qui abritait des dizaines de bistrots. Donc on est en train de tuer les vides quartiers.
Qu'est-ce qui reste encore?
Sur Moulins, il reste la rumeur, il reste quelques bricoles, mais pas grand-chose.
Il faut voir à Oisem, par exemple. Oisem, il y a quelques années, on sortait la nuit, il y avait du monde, ça bougeait, c'était animé, très animé. Et maintenant, Oisem, vous allez samedi vers après minuit, après une heure à Oisem, c'est limite, quoi. Il y a rue Henri Kolb. Justement, il y a deux semaines, 10 jours, il y a eu une descente énorme rue Henri Kolb qui était impressionnante. Il y a eu une arrestation d'un salarié du Resto Soleil pour ces mêmes raisons. Ce que vient de dire Yann, il suffit à la limite de sortir un peu le samedi soir dans la nuit et on l'observe très facilement.
N'oubliez pas vos papiers.
Voilà, ça c'est sûr.
Lille, la nuit c'est fini, Lille va crever d'ennui.
Voilà, merci à la Mano pour les intertitres.
Qu'est-ce que je voulais dire? Pendant qu'on y est, il reste encore le biplan, mais... Bon, il y a un petit bar, puis les chanteurs vont à la cave, donc ça fait moins de bruit pour les voisins. Alors, je rappelle que ce week-end, 24 et 25 janvier, la compagnie AAA jouera sa pièce « Amène ton pèse », l'église de la très sainte consommation. On pourrait peut-être pas les oublier. À Bruxelles, il y a manifestement.be, tapez dans votre moteur de recherche manifestement.be, il y a une manifestation pour un partage de la Villénie. Donc ce sera le 26 janvier à 15h, Bruxelles, capitale de l'Union européenne, pour un partage de la violence, c'est-à-dire la violence pour tous, et non la violence. Concept, si la violence est la sage-femme de l'histoire, qui sont la parturiente et l'obstétricien, ou obstétricienne et l'heureux papa. La violence, partageons-la. Alors je vous signale que ce sont quand même des activistes artistes, il n'y a pas de... Donc le départ c'est avenue Mahatma Gandhi à Bruxelles ce 26 janvier à 15h. Ils en sont aussi réduits à faire ce genre de choses à Bruxelles, parce qu'il y a beaucoup de choses qui disparaissent, mais là c'est la capitale de l'Union Européenne. Une petite pause musicale avec ce coup-ci, véritablement... L'éducation à travers les médias, le morceau Assassin.
Non, ça c'était le précédent.
Vous pourrez consulter le site web de Radio Campus Lille, www.campuslille.com, pour réécouter l'émission. Je gommerai ces erreurs d'énoncé de titres et vous trouverez les bons titres. Donc là, c'est le groupe
La Rumeur.
La Rumeur, voilà. Cicatrice.
365 cicatrices.
365 cicatrices. Mes excuses.
365 cicatrices, et sur ma peau, ma couleur a connu tous les hommes qui lui ont dit qu'elle était dévastatrice et qu'elle reste l'opposé du beau, complice du vice sous toutes ses formes. C'était écrit comme ces stupides règles et ces cons comme ces nègres, cupides qui ont vendu les leurs dans les pleurs et les cris, étouffés par les traits espiègles, comme si l'espèce bipède écoutait son cœur. J'ai pleuré, rarement ri, comme à cette connerie d'abolition, et à leurs 150 ans, ils peuvent se le foutre dans le fion. Ils étaient fiers en rôle et tirailleurs. Et en fin de guerre, t'as su comment leur dire d'aller se faire voir ailleurs. Et qui on appelle pour les excréments, des travailleurs déracinés, laissant femmes et enfants. Et ces traditions qu'ils sauvegardent, en y repensant, j'ai de la peine pour ces noirs teints blonds pour faire blanc. S'ils savaient que pour être libre, fallait courir, ne pas se faire couper les jambes par celui qui veut tout asservir. Y'a des chaînes qui nous maintiennent au bas de l'échelle. Et pour que ça change, faudra attendre que la banquise dégèle. Regarde l'Afrique et les Antilles, l'Inde et les autres îles. Regarde les traces de l'homme blanc qui traumatise nos esprits. Non pas à vie, mais pour des générations. J'ai mon avis sur les suites des colonisations. Critique sur la façon dont on m'oblige à penser. Mais qu'est-ce t'en sais? J'ai pas eu le choix de vivre comme un Français. Un Français FABA, une monnaie forte qu'on exporte en Outre-mer. Et dans les deux cas, c'est comme droguer nos terres. Ils ont enchaîné nos pères pour qu'ils les regardent violer nos mères. Et merde si aujourd'hui on en subit les séquelles. Mais qu'est-ce que quelques années, environ 400? Et si la fin colle au début, ça finira dans un bain de sang.
Parole de descendant de couleur de calme.
Vous écoutez Radio Campus Lille, le journal La Brique, avec nous. Bah, il fait assez gris, on va parler un peu du sud de Lille.
Du sud, ouais, aussi, on peut en parler. Ouais, Lille Sud, on a fait un travail de reportage et d'enquête là-bas, pour voir si ce quartier qui est, on parlait du centre et des périphéries tout à l'heure, on pourrait dire que celui-là, il est un peu en marge, un quartier un peu isolé du reste de la ville. Par des années d'urbanisme, ça c'est un peu l'histoire, on ne reviendra pas dessus, mais c'est un quartier qui se trouve au sud du périphérique de Lille, et c'est un quartier qui est très populaire. Et donc on voulait savoir, en se rendant sur place, si ce quartier profitait lui aussi, comme le vieux Lille, comme le centre, de la grande culture Lille 3000 qui a été mise en place depuis 2004, et voir comment ça se passait là-bas. Donc, on s'est rendu sur place pendant un certain temps, un mois. On a rencontré beaucoup de gens qui sont des habitants de l'île sud, qui vivent depuis toujours, qui sont pour certains très connus dans le quartier, qui sont investis dans les associations, qui connaissent les centres sociaux. Je pense qu'on a été bien aiguillés à ce niveau-là pour rencontrer les bonnes personnes. Premier point déjà, ce qui a surpris, c'est que moi j'ai l'habitude de faire un peu de terrain de temps en temps, et souvent les gens des fois sont un peu gênés quand c'est la brique qui vient leur adresser la parole, ou ils ont un peu peur, mais c'est jamais trop flagrant, alors qu'à l'île sud c'était vraiment ça tout de suite. Les gens, quand je demandais un témoignage, que je leur demandais des informations en me présentant comme la brique, c'était parfois très difficile parce qu'ils avaient peur, de quelque chose, ils avaient peur de peut-être de représailles, ou en tout cas d'être connus, pour beaucoup c'était l'anonymat, quoi. Et ça a fait un peu un tic, il y avait quelque chose qui se passait, il fallait enquêter un peu plus. Donc à l'île sud, actuellement, c'est le grand projet de rénovation urbaine. Toutes les vieilles cités, toutes les vieilles bars sont détruites progressivement et on reconstruit par-dessus. Donc c'est fondu dans le projet en rue, hein. C'est des financements qui sont aussi nationaux que locaux. Et en même temps, donc forcément, pour accompagner cette rénovation du quartier, il y a aussi, on pourrait dire, une sorte de politique culturelle, de rénovation culturelle qui est mise en place en dehors de ce qui existait déjà. Et ce qui est le plus symbolique de ça, c'est la nouvelle salle de spectacle, de concert qui a été construite à l'île sud et qui s'appelle le Grand Sud. Donc c'est une salle très très récente qui nous est vendue évidemment comme une salle de quartier, de proximité, qui aurait été construite et conçue avec les habitants. Alors c'est en partie vrai et c'est en partie faux. Disons que maintenant la plupart des habitants qui ont été interrogés sur cette salle considèrent qu'ils ont été trompés, car vraiment elle a été présentée principalement comme vraiment une salle de proximité de quartier qui servirait avant tout aux habitants. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que ce n'est pas vraiment le cas. Que ce qui est passé prioritaire dans ces fonctions, c'est ça, on pourrait dire son deuxième but, c'est attirer des gens à l'île sud et qui ne sont pas de l'île sud. Et donc les concerts, les gros concerts qui sont organisés le week-end le montrent bien. C'est une sorte d'aéronef qu'on aurait plaqué comme ça à l'île sud. Sauf qu'ici, on est dans un quartier qui est populaire, qui est historique, où les gens ont, on pourrait dire, une culture de quartier, en tout cas qui se divise en différents secteurs, mais il y a un peu de ça. On est l'île sud, quoi. Et on n'arrive pas comme ça. On plaque une salle de concert qui est construite par un architecte, une star-architecte très connue. On met des millions dedans. Et puis finalement, l'objectif inavoué, c'est d'attirer des classes supérieures, des classes moyennes supérieures dans le quartier. La culture, elle va servir à ça aussi.
Ils peuvent se garer, là. Il y a de la place pour se garer.
Bah, justement, non. C'est ce que les habitants de l'île sud reprochent énormément à la politique. C'est que,
ça que ça sert.
Avec le projet de rénovation urbaine, ils ont enlevé les places de parking. Ils enlèvent les places de parking. Ouais. Donc ça énerve tous les habitants parce qu'ils se font verbaliser. Quoi. Ils se font verbaliser alors qu'on est dans un quartier populaire, quoi.
Ah, ils sont chez eux.
Les gens se retrouvent avec des PV.
Sur ce que tu dis là, c'était exactement la même logique avec l'implantation du Faubourg des Modes il y a quelques années.
Exactement, ouais, le Faubourg des Modes, donc ça c'est de 2007, c'est dans la rue du Faubourg des Postes, juste après le commissariat. Donc vous rentrez dans cette rue, ils en ont fait un Faubourg des Modes. Donc l'idée c'est de fournir des boutiques ateliers, des ateliers boutiques à des créateurs dans le textile, plutôt dans le textile, mais il n'y a pas que ça. Et donc on les accompagne, on les aide financièrement. Ils ont les premiers mois de loyer qui sont pas très chers, et puis ils peuvent vivre au-dessus de leur boutique. Il y a des petits appartements qui sont là pour ça. Bon, alors c'est pareil, cette idée de Faubourg des Modes, c'est attirer des gens dans ce quartier, irriguer l'île sud, comme dirait le premier adjoint Pierre de Saint-Ignon, irriguer l'île sud, hein, c'est un terme qui est très fort. Il s'agit souvent aussi, c'est les termes qu'on trouve dans les médias, de redresser l'île sud par ce genre de politique. Donc là, le Faubourg des Modes, très bien, on peut se dire, est-ce que ça profite au quartier ? Au final, non, ça ne profite pas au quartier. Et il y a même l'Express qui titrait là-dessus en parlant de choc des cultures. Ah, de choc des cultures, parce que les vitrines du boulevard des modes sont intéressantes, il faut y jeter un œil. Vous y trouvez des montres qui ne donnent pas l'heure, mais qui se vendent de 500 à 1000 euros. Vous y trouvez des parapluies à 200 euros. Vous y trouvez des perfectos à 550 euros. Des choses qui ne parlent pas vraiment, en fait, à des personnes qui vivent dans un quartier populaire, qui ont plus des problématiques, eux, dans leur vie de logement, de travail, de galères au quotidien. Et on leur claque ça dans la tête. Donc, vraiment, il y a une histoire de culture du mépris. Et aussi...
Il y a une petite anecdote, moi, que j'aime bien, si tu veux bien me la dire.
Bah, ce qui accompagne, au final, le grand projet urbain, le Faubourg des Modes, c'est aussi un commissariat qui a été un des plus grands commissariats d'Europe, qui a été construit juste à côté, dans l'entrée du quartier. En face, maintenant, le nouveau projet, c'est un centre commercial qui va s'appeler l'Illenium, avec à l'intérieur un supermarché Leclerc, forcément. Vous rendez... Bon, il y a la halle de la glisse aussi, où on peut faire du skateboard, du BMX, juste à côté du commissariat. Et vous rendez aujourd'hui là, au niveau du futur centre commercial, vous y voyez des panneaux de publicité, donc de l'affichage qui annonce la future venue du centre commercial, hein. C'est l'Illenium coming soon, hein. On dit bien coming soon, donc qui arrive bientôt dans le quartier. Vous y voyez plein de slogans écrits en anglais, du shopping, des kids, des events, des hôtels, etc. Et puis vous y voyez aussi une photo qui est assez symbolique, une grande photo où vous voyez un enfant tout blond, qui est déguisé en super-héros, en Flash Gordon, quelque chose comme ça. Et puis, il est en premier plan. On voit qu'il regarde la ville comme ça. Il surplombe la ville, il la regarde de loin. Et il y a marqué à côté Louis, explorateur du nouveau quartier. Louis, explorateur du nouveau quartier. Donc voilà, l'idée de l'objectif que va poursuivre la mairie de Lille actuellement, et grâce, elle le fait grâce aux politiques culturelles, c'est irriguer l'île sud en petits Louis qui pourront s'amuser à faire du skateboard et du BMX dans les halles de la glisse, qui seront en sécurité à côté d'un commissariat, qui pourront s'acheter des perfectos à 550 euros et des montres qui ne donnent pas l'heure. Et puis, ils pourront aussi aller s'éclater dans des soirées électro-hipster où on prend toutes sortes de drogues bizarres qui nous viennent de Paris. Ils pourront y aller aussi au Grand Sud. Ils auront 30 euros pour payer l'entrée, à la limite, ça, c'est pas un problème. Je vais m'arrêter là, je suis trop long, mais lisez cet article, il est excellent.
Et puis on va passer peut-être tout de suite
au sud du périphérique, on cultive le mépris.
Voilà,
je donne le nom de l'article.
C'était le nom de l'article sur
reportage.
Ensuite, donc là plutôt la fin de ce numéro, on a essayé de faire deux articles qui, comme pour tous ces numéros thématiques, les trois numéros thématiques, qui tentent de relayer un peu des initiatives qui nous semblent intéressantes. Donc on a un premier article qu'on a appelé « Sortir de la culture d'excellence » et qui, en reprenant rapidement les subventions qui sont allouées à ce qu'on appelle la culture légitime, la culture officielle, qui est en fait la culture aussi bourgeoise, historiquement au moins, c'est-à-dire OPA, Théâtre du Nord, Orchestre National. On se rend compte que là, les millions pleuvent un peu sur ces structures et qui sont des structures qui sont quand même pas énormément fréquentées par tous les Lillois, et qu'à côté, on a des difficultés très grandes pour quelques compagnies à toucher de l'argent et à pouvoir avoir quelques subventions de fonctionnement.
Et autorisations de se produire. Vu ce qu'on a vu dans les cafés.
Et autorisations de se produire, donc c'est-à-dire les programmateurs des structures, c'est-à-dire la DRAC, c'est-à-dire la région, c'est-à-dire la métropole et la ville de Lille. Tout ça, on est vraiment c'est vraiment très très compliqué d'essayer de vivre en fait du théâtre, notamment pour ces petites structures-là. Et puis qu'en plus, c'est des structures qui ont des positionnements politiques, généralement, qui ont envie de dire des choses, et alors ça passe pas tout le temps, et en tout cas, c'est un peu... Et donc, qui sont à la merci de décideurs qui ont l'argent, de programmateurs, de financeurs, et ces financeurs-là ont des décisions bien arrêtées sur ce que doit être un bon spectacle, sur ce que doit être un bon... sur ce qui est à la mode aujourd'hui, sur la personne qui va pouvoir fleurir et émerger. Et donc, en rapport avec ces millions qui pleuvent sur ces structures, on est vraiment assez loin. Et on essaye à la fin de cet article de pouvoir mettre en avant quelques pistes de réflexion, notamment celle de pouvoir s'organiser en coopérative d'artistes, par exemple, et de pouvoir, nous, spectateurs, rentrer aussi un peu plus dans la tambouille interne des acteurs, dans la tambouille interne de ces compagnies-là, en essayant de les aider, en pouvant s'organiser entre nous aussi pour mettre de l'argent en avant, à ce que ces petites compagnies-là qui ont à un moment donné signé une pétition à l'attention de Daniel Percheron concernant des restrictions de financement, que ces compagnies-là puissent se mettre ensemble, puissent avoir une parole collective, une parole commune. Et voilà, donc la fin de cet article invite les compagnies, invite les spectateurs aussi à devenir plus acteurs et à tenter de pouvoir s'organiser de manière autonome. Si on voit que ça passe pas via les financements d'en haut, et ben on va s'organiser par en bas.
Il faut
je
pense qu'il faut penser ça, l'argent public, parce que certaines personnes vont peut-être nous reprocher de dire qu'on est anti-culture ou anti-politique culturelle. C'est pas du tout ça ce qu'on veut dire. C'est que l'argent public, il est orienté dans un sens qui ne convient pas pour une ville comme Lille ou pour même une région ou un pays. Enfin,
le théâtre du Nord, il faut se les farcir, les pièces. Hein.
Ouais, c'est vrai, il y a certaines.
Délire.
Mais c'est ça aussi, est-ce que l'argument de la droite contre Martine Aubry et le socialiste, c'est toujours de dire vous mettez trop d'argent dans la culture, alors qu'il faut du logement, il faut du travail, etc. On veut pas être assimilé à ce genre d'argument de la droite. On pense qu'effectivement il faut de l'argent pour la culture, mais pas comme c'est fait actuellement.
Exactement.
C'est ça, surtout, il faut faire bien le positionnement. Quoi.
Et une culture qui sert pas les intérêts municipaux, les intérêts publics et les intérêts patronaux, qui sert d'abord
population et qui soit une culture de la population qui vienne
aux habitants de la ville. Oui,
faut faire émerger ça, c'est que voilà.
Voilà, la mission prend fin. Il nous reste encore quelques secondes. On va se retrouver soit pour le prochain numéro, soit avant. Il suffit de prendre rendez-vous, messieurs.
Justement, il y a deux dates importantes où la Brix présente. C'est le 4 février, le mardi 4 février, au Haricot, rue Gambetta, un petit café rue Gambetta, pour une discussion autour de ce numéro. Et le 6 février, à 18h, ouais. Et le 6 février, à 21h cette fois-ci, c'est une soirée festive de culture sauvage mixte. Singdijing au Resto Soleil, rue Henri Kolb, à 21h le 6 février, et donc le 4 février au Haricot, rue Gambetta, à 18h.
Venez nombreux.
Et ce sera dans l'agenda de Radio Campus Lille, en bas à droite.
Chouette. Super. Merci beaucoup.
À bientôt. Merci.
Tout le monde. À bientôt tout le monde.
Salut.